finalement, il y a des villes, il y a des élus qui font vraiment beaucoup de travail en faveur des droits de l'homme, même sans le savoir, dans le quotidien de leur mission. Et souvent, à la CAT, on voit que les entorses aux droits de l'homme. On a tout le temps les manquements, les prisonniers, les condamnés, les torturés, bien sûr. Et on se focalise toujours sur cet aspect négatif qui finit par être un peu... Bon, c'est un peu lourd. Et pourquoi on ne mettrait pas en évidence ce qui se fait en faveur des droits de l'homme, presque sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte? Alors, on en parle avec Odile, Odile Clairaut, et elle dit, mais je connais une élue à Dax, ou j'en connais deux, et de toute façon, il y en a. Ça serait intéressant de les rencontrer, qu'elle nous explique les droits de l'homme au quotidien pour les citoyens, pour les élus, au ras de la vie politique dans le sens le plus solide du terme, c'est-à-dire la vie de la cité. Et Viviane Lomé-Sexo, qui est adjointe au maire de Dax, et Géraldine Madounari, qui est déléguée à la jeunesse, nous font le plaisir d'être avec nous. Alors, je ne sais pas si vous avez prévu, je vois que vous avez une centaine de feuilles.
Oui, oui, voilà. On peut tenir longtemps, jusqu'à minuit.
Nous avons combien de temps, normalement, sur notre programme ?
Une heure, c'est une heure. Hein.
Nous avons une heure ?
Oui.
Bon, allez, nous avons une heure. On va vous écouter d'abord, peut-être.
Oui.
Et puis ensuite, on va discuter parce que
exactement.
Nous sommes des citoyens responsables et nous avons besoin de discuter avec nos élus.
Bien. Alors,
ça marche. Est-ce que ça va comme ça avec le micro ?
Ou est-ce que vous préférez sans micro ?
Avec le micro. Avec le micro. Bien. Alors, Odile n'est toujours pas revenue, mais ce n'est pas grave, elle va nous rejoindre. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que le temps passe vite parce que les choses finissent toujours par arriver. Ça fait un moment qu'Odile, effectivement, m'a sollicité, que j'en ai parlé à ma collègue Géraldine Madounari pour ne pas venir toute seule, on ne sait jamais. Voilà, donc oui, ce sujet nous a intéressés. On a même eu le choix du titre entre trois possibilités. Et on a donc choisi « Droit de l'homme au quotidien, engagement politique et citoyen ». Voilà Odile, donc c'est parfait. Non, non, mais c'est... Alors, cette introduction, elle correspond tout à fait aux propos que j'allais tenir justement pour, avant de passer la parole à Géraldine. Donc l'idée, c'est que Géraldine et moi allons parler pendant un petit moment, mais pas très long, parce qu'effectivement, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir échanger avec vous. D'abord parce que vous aurez, je l'espère, des commentaires sur ce que l'on va dire, des questions peut-être à nous poser. Et puis pour que ça puisse vraiment correspondre à ce que vous attendiez de ce moment-là, que personne ne reparte déçu ou frustré de cette rencontre. Voilà, et effectivement, lorsque l'on a préparé avec Géraldine notre introduction, ben oui, c'est ce que je me suis dit, ben tiens, on va reprendre les droits de l'homme, et puis on va voir, ben nous, au quotidien, finalement, qu'est-ce qu'on a fait, ou qu'est-ce qu'on fait, ou sur quoi on bataille, pour qu'ils soient respectés au mieux. En tout cas sur le territoire sur lequel nous intervenons. Et assez étonnamment, tout à l'heure en préparant, je me disais mais que dans les différents projets municipaux, dans les différents projets de services, tu me diras si tu me corriges si tu n'es pas d'accord Géraldine, ou même dans les programmes des candidats, ben, on ne s'appuie pas explicitement sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne crois pas qu'un jour on ait cité la Déclaration universelle des droits de l'homme dans un projet rédigé, que ce soit un service à la mairie, que ce soit le service d'éducation, dans le projet de territoire, le projet éducatif de territoire, que ce soit le service social par exemple. On fait des projets qui sont très structurés, qui sont très intéressants, sur lesquels on s'appuie pour agir, mais je ne suis pas sûre qu'on ait cité explicitement un jour la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors évidemment, c'est un petit peu étonnant. Pourtant, cette Déclaration quand même universelle des droits de l'homme, elle a fêté ses 70 ans l'an passé, il y a quelques mois. Ça n'a pas été fait de manière très tonitruante, il faut bien le dire. Et on peut se le prendre nous aussi. Hein. Alors c'est vrai qu'on avait beaucoup d'anniversaires l'an passé. On était un peu plus dans le centenaire 14-18, mais c'est vrai que on l'utilise pas toujours de manière très explicite dans nos documents. Alors on va être plus dans le domaine de l'implicite, c'est-à-dire que sous-entendu, évidemment, c'est le potentat de départ, il faut respecter les droits de l'homme, donc on va utiliser des expressions un peu plus contournantes ou peut-être un peu plus édulcorées, je ne sais pas, vous me le direz, mais ça va être quelque chose du type l'accès de tous à la culture, l'accès de tous à l'éducation, etc. Alors pourquoi ? Bah, peut-être parce qu'on considère que les droits de l'homme, c'est une évidence. Peut-être parce qu'en France, on aurait un petit peu honte d'admettre que les droits de l'homme ne sont pas toujours parfaitement respectés, je ne sais pas, c'est peut-être cela que ça induirait. Peut-être que l'on a une certaine pudeur ou retenue à convoquer l'universel à l'échelle du territoire de la cité, je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait. C'est d'autant plus amusant que personne, aucun élu, à ma connaissance, n'a rechigné lorsqu'il a fallu afficher la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'entrée de tous les établissements scolaires. Comme si on considérait que c'est quelque chose qui relevait d'un apprentissage scolaire, comme un événement historique, je ne sais pas. Et puis après, finalement, on ne sait pas. Alors, soit on a pu s'en saisir, soit on ne s'en est pas saisi, soit on le vit au quotidien, soit on ne le vit pas. Voilà, c'est un petit peu étrange. On pourra peut-être échanger là-dessus tout à l'heure. Alors, nous nous sommes interrogés, je le disais, avec Géraldine, dans nos actions, dans les actions que nous avons portées, dans les choses que nous avons défendues, ben, quel droit de l'homme, voilà, quel droit de l'homme, peut-être sans le savoir, avons-nous défendu ? Je laisse la parole d'abord à Géraldine, qui va évidemment vous présenter son champ d'action.
Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre invitation, merci à la CARTE, car c'est toujours un sujet très intéressant et qui bien souvent, comme le disait Viviane, est oublié, noyé dans le reste. Et on oublie souvent qu'on a une constitution et qu'on a une déclaration des droits de l'homme qui permet de s'appuyer sur, peut-être pour construire nos actions d'élus, effectivement, et pour les renforcer. Donc moi je suis Géraldine Madonari, je suis conseillère municipale déléguée à la jeunesse. Je suis conseillère municipale, je suis élue depuis 2008, mais je suis conseillère municipale déléguée à la jeunesse depuis 2016. Effectivement, en 2008 nous avons décidé que chaque DAQUA devait trouver sa place et devait avoir accès à tous les services, aussi éloignés soit-il. Donc la première action a été effectivement de revoir au niveau de l'action sociale le centre social et de le renommer centre social et culturel. Et lui le placer en plein cœur de ville pour permettre à tout et à chacun de pouvoir y accéder et de pouvoir accéder à des services aussi bien pour les familles, pour la culture, mais également pour la jeunesse. En ayant un secteur jeunesse. En 2016, Madame le maire Elisabeth Bonjean a souhaité que la jeunesse n'était pas un secteur, mais devait être un service à part entière. Et pourquoi ? Pour permettre à chaque jeune, et là on est quand même dans le cœur de notre rencontre d'aujourd'hui, pour lui donner à part entière sa place, pour qu'il trouve sa place en tant que citoyen. Et pour lui permettre de devenir un citoyen à part entière. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est très facile, mais il faut le faire. Il faut leur permettre de pouvoir le faire. Donc c'est à travers différentes actions, mais des actions qui doivent avoir du sens. Pas seulement se réunir autour d'un baby-foot ou les laisser jouer devant une console de jeux vidéo, parce qu'on sait qu'aussi ça, ils le font. Mais c'est leur donner la possibilité d'aller à la rencontre de l'autre, de rencontrer l'autre, même s'il est différent, même s'il n'habite pas le même pays que lui, même s'il n'a même pas la culture que lui. Et les jeunes ont souhaité créer des clubs où ils se rencontrent, dont un club solidarité, avec des propositions très fortes, qui donnaient tout son sens à notre action politique et à notre but, effectivement, de permettre à ces jeunes de trouver leur place. Et nous nous rendons compte, bien souvent, que c'est eux qui nous rappellent qu'il y a une déclaration des droits de l'homme, et que c'est eux qui nous rappellent que nous, on oublie un petit peu quand même. Donc leur première action en tant que jeune et que j'ai accompagné et même favorisé, c'est une action envers des Éthiopiens Oromo en les rencontrant et en créant une chanson ensemble sur ce que les Oromo avaient vécu pour arriver en France, comment ils étaient arrivés en France et ces jeunes Français. Et ça a fait une chanson qui a été chantée à l'Atrium lors des rencontres Zaïre. C'est aussi permettre notre action des lieux en faveur des Dakwa, mais pour essayer au mieux de tendre vers le respect des droits de l'homme, c'est aussi permettre à chacun et à chacune d'avoir accès à des services qui pourraient paraître compliqués. D'y aller et notamment je reviens sur le centre social et culturel mais c'est aussi sur le centre communal d'action sociale où là nous permettons aux personnes, aux seniors, à nos seniors de pouvoir accéder à la culture, aux rencontres intergénérationnelles qui favorisent aussi le vivre ensemble parce que la déclaration des droits de l'homme n'est-ce pas aussi ça, le vivre ensemble et permettre des rencontres, favoriser des rencontres, des échanges qui tendent à s'accepter les uns les autres, à vivre les uns les autres plus sereinement. Nos actions aussi sont en faveur de l'éducation, l'éducation avec là aussi dans les écoles des possibilités d'action d'enseignement culturel. Avec des résidences d'artistes qui permettent des rencontres aussi entre des artistes et des enfants pour créer des instants, des spectacles de théâtre, de danse, pour des enfants qui pourraient être très très éloignés, soit d'une pratique sportive, soit d'une pratique culturelle, car le ménage ne peut pas se le permettre. C'est aussi donner la possibilité à ces enfants, en termes d'instruments de musique, de découvrir des instruments de musique, avec la possibilité dans les écoles d'avoir le conservatoire municipal de l'Axe qui vient dans les écoles pour leur faire découvrir des instruments de musique. Et notamment, pendant les temps d'activité périscolaire, c'est ne pas se contenter de se dire « l'enfant doit rester à l'école parce que papa ou maman travaille, donc on va lui faire faire une petite activité de collage ou un puzzle », non. C'est lui permettre d'avoir accès au conservatoire municipal, d'avoir accès aux structures sportives. Mais pour ça, ça veut dire aussi donner les moyens que ces structures puissent accueillir le plus grand nombre. C'est aussi pour les étudiants, la possibilité à nos étudiants, à nos jeunes étudiants, de ne pas être obligés de partir faire ses études loin quand c'est assez compliqué, que ce soit socialement, que ce soit financièrement ou que ce soit même émotionnellement, puisqu'il y a des jeunes qui ont du mal à partir, parce que c'est trop tôt, parce que c'est compliqué. Donc il faut leur permettre d'être là, de rester là. Donc c'est pour ça que depuis l'an dernier, nous avons décidé que la première année de médecine, ça a été un gros, gros dossier, d'avoir la première année de médecine ici, à Dax, car nous savons que plus de 30% des jeunes qui partent en première année de médecine échouent pour la première année à cause de l'éloignement géographique et familial. Ce pourcentage est encore plus augmenté quand c'est une famille, quand c'est un jeune d'un foyer social assez pauvre. Donc c'est là aussi se dire que chacun doit avoir sa chance et que l'égalité des chances n'est pas un vain mot. On donne les moyens aux jeunes de pouvoir accéder à des études, des hautes études, des études supérieures, ici à Dax. C'est aussi avec l'ouverture d'une école d'ingénieurs en informatique sur le territoire d'Accoin. C'est aussi la possibilité de prendre une compétence pour l'agglomération d'Accoise de l'enseignement supérieur pour permettre effectivement au plus grand nombre de pouvoir accéder aux études dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions. Donc le lieu que je suis doit veiller à tout cela au quotidien, c'est-à-dire qu'aucun jeune ne doit être laissé au bord de la route parce qu'il n'a pas forcément les moyens, quels qu'ils soient, d'accéder à des services que nous sommes dans l'obligation ou pas, et que nous faisons le choix de proposer. Est-ce que j'ai dépassé ?
Non, vas-y, tu te...
Mais c'est aussi sensibiliser la population à l'environnement, puisque les droits de l'homme, c'est aussi veiller les uns sur les autres, et c'est veiller à notre environnement. Donc là aussi, c'est donner la possibilité aux jeunes et aux moins jeunes d'avoir accès à une école de la nature où là, tout le monde, gratuitement, peut venir participer à des conférences, à des ateliers, à des actions culturelles autour de l'environnement et du développement durable. Et enfin, c'est permettre de la naissance à la mort, je dirais, à tout le monde d'être considéré et de trouver sa place dans la cité, et toute sa place, quel qu'il soit. Et ça fait la transition avec ma collègue à qui je repasse la parole.
Et on n'a presque pas répété. Alors je vais intervenir maintenant en tant qu'adjointe au maire en charge des services à la population et de la proximité. C'est le libellé de la mission qui m'a été confiée en 2014. Comme pour Géraldine, c'est mon deuxième mandat d'élu municipal. J'ai été élue une première fois en 2008 et j'ai passé donc les 6 ans sur le poste d'adjointe à l'éducation. Alors pour ceux qui me connaissent, ça doit le faire sourire parce que mon métier, c'est enseignante. Donc, je faisais du 24 heures sur 24 dans l'éducation. C'est passionnant, mais je mesure avec le recul que vraiment, je n'ai pas sorti le nez de la thématique pendant 6 ans. Voilà, donc Géraldine a parlé de l'aspect éducation. Je vais quand même y faire une incursion dans un deuxième temps, nous en reparlerons. Mais revenons donc à la mission qui m'a été confiée lors de cette... sur la mandature actuelle, c'est donc les services à la population et la proximité. Alors les services à la population, eh bien c'est tout ce qui est état civil, donc tout ce qui va relever des déclarations de naissance, des mariages, des PACS, des déclarations de décès, et puis au milieu il y a quelques parrainages civils qui viennent se greffer. C'est le service funéraire, lien avec ce que vient de dire Géraldine, c'est le service des titres d'identité, c'est aussi les autorisations de séjour, et puis ça englobe également l'accueil de la mairie. Voilà, alors vous allez me dire, les droits de l'homme là-dedans. Ben justement, en y réfléchissant bien, je me dis que lorsque je regarde ce service et ces services, je devrais dire, et que je pense aux droits de l'homme, le premier qui me vient, bien, c'est la première phrase du premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Et pour ça, à mon avis, on n'y pense pas trop, il faut y être dessus pour s'en apercevoir, mais le service à la population, en particulier l'état civil, je crois que c'est peut-être le plus bel exemple d'égalité de tous les citoyens. Alors je vais développer un petit peu pour vous montrer en quoi on peut quand même activer quelques leviers pour faire respecter encore et mieux les droits de l'homme dans ce domaine-là aussi. Alors, je disais que c'est un bon exemple d'égalité, le service état civil en particulier, le service à la population, il faut bien le dire, c'est un bon exemple parce qu'en France, nous avons quand même la chance d'avoir la loi de notre côté. Et en effet... nous avons l'obligation, enfin en France, hein, l'obligation est faite de déclarer par exemple les naissances et les décès. Et elle oblige également au mariage civil avant toute autre cérémonie religieuse. Désolée, c'est moi qui donne l'autorisation à monsieur l'abbé ou monsieur le curé de célébrer après moi. Voilà. Il n'a pas le droit de le faire avant, sinon il lui en coûte très cher. C'est vrai en plus, voilà. C'est un petit plaisir que je me fais d'ailleurs de temps en temps. Donc je reprends le fil, excusez-moi cette digression. Elle oblige, donc je le disais, au mariage civil avant toute autre cérémonie religieuse ou laïque, puisque nous avons maintenant des cérémonies laïques qui fleurissent, c'est la grande mode. On en pense ce qu'on en veut. Alors cela peut paraître anodin, je le disais, mais ceux qui ont fait ou font des recherches généalogiques, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais peut-être que vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que se passe-t-il dans un service état civil? Et bien finalement, qui que vous soyez, ben vous avez la même place dans les registres d'état civil. Une page. Une page pour votre naissance, une page pour votre décès, entre-temps si vous êtes marié, une page pour votre mariage, et puis vos enfants, etc., ont la même place. Quel que soit votre niveau, quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes né, quel que soit votre niveau de vie, quelles que soient vos convictions, vous avez la même place. Alors si, comme moi, vous avez mis le nez dans des vieux actes d'état civil ou de vieux actes lorsqu'ils étaient tenus par les prêtres et les curés, vous avez pu vous apercevoir qu'il n'en a pas toujours été de même et que certaines personnes avaient droit à des actes beaucoup plus précis et beaucoup plus longs que d'autres où il y avait, et on en est heureux, de trouver le nom et le prénom, surtout pour les dames. Voilà, maintenant, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ce qui me fait dire que, certes, au service à la population, il n'y a pas forcément de grands projets d'investissement structurants, mais comme je le dis, nous garantissons votre existence du début à la fin. Alors cela passe aussi par des petits détails qui peuvent paraître anodins, qui ne sont pas obligatoires, mais qui montrent quand même qu'il est important que chacun se sente reconnu, quel que soit, voilà, je le disais, son milieu, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions. Il est important que chacun trouve sa place dans la cité. Alors par quoi ça peut passer? Par des petits détails quelquefois, mais qui moi me semblent importants et qui nous a semblé important de proposer dans notre ville. Alors par exemple, je fais en sorte justement qu'il n'y ait pas de petits et de grands mariages. Alors certes, il y en a des petits et des grands en termes de nombre de personnes, mais pour moi, que je célèbre un mariage avec 4 personnes, c'est-à-dire 2 mariés et 2 témoins, ou que je célèbre un mariage avec 300 personnes, c'est-à-dire 2 mariés, 4 témoins, et puis les invités qui sont debout au fond de la salle parce que tout le monde n'a pas de chaise pour s'asseoir, pour moi, d'abord je suis tenue par la loi de célébrer les mêmes paroles, de prononcer les mêmes paroles et de demander les mêmes choses, mais en plus, pour moi, l'accueil, il va être le même. Et puis, j'ai l'habitude de dire un petit mot, voilà, à tous les mariés, quels qu'ils soient, voilà, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, parce que ce qui est le petit plus que l'on a quand on célèbre des mariages civils, c'est qu'effectivement, on a peut-être un panel beaucoup plus large de personnes qui viennent franchir ce pas à la mairie. Alors, quelquefois, c'est vrai, on a des remariages, quelquefois, on a des mariages un peu tardifs, mais d'arriver aussi de marier des septuagénaires. On a des mariages pour tous aussi, hein, des mariages de 2 personnes de même sexe, etc. Mais pour moi, l'accueil doit être toujours le même, toujours. Tous égaux, alors Géraldine a eu du mal à aller jusqu'au bout de sa phrase tout à l'heure, elle disait on s'occupe de tout le monde, de la naissance jusqu'à la mort aussi, on s'occupe de vous. Et c'est vrai que s'il y a un point d'égalité, c'est bien celui-là, à un moment on y arrive tous devant, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop. Et ça c'est un fait, mais il est parfois difficile d'être égaux, par contre face à la qualité de l'inhumation. Alors là, la force publique et les élus que nous sommes, on entre aussi en jeu dans cette question-là. Alors par exemple, nous veillons à ce que chacun soit inhumé dignement. Alors il y a ce qu'on appelle dans les cimetières un terrain commun, c'est ce qu'on appelait avant le carré des indigents, on appelle ça maintenant plus pudiquement le terrain commun. Eh bien, nous avons fait le choix, il y a plusieurs mois maintenant, de réhabiliter le terrain commun qui était dans le cimetière du Haut-Saint-Vincent, pour ceux qui le connaissent,
qui était dans un piteux état, et nous avons essayé d'en faire quelque chose de digne, avec effectivement un aménagement paysager agréable à l'œil, et puis une pierre tombale et une inscription qui est la même pour tous. Voilà. Ce sont des petits pas quotidiens qui font que, je l'espère, le quotidien des concitoyens est un peu plus lumineux. Alors pour ce qui est de l'accueil, puisque je vous ai dit tout à l'heure, dans mes prérogatives, il y a l'accueil de la mairie. Alors évidemment, on pense tout de suite à l'accessibilité, par exemple, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Alors ça, évidemment, la loi oblige à beaucoup de choses et c'est heureux. C'est un peu lent à notre goût parce que ça nécessite beaucoup d'argent, mais c'est nécessaire toutefois. Et je crois que de ce côté-là, pas uniquement les municipalités d'ailleurs, et pas uniquement Dax, heureusement, nous avons fait beaucoup de progrès. Mais l'expérience montre que cela ne suffit pas toujours pour prétendre accueillir de manière exhaustive tout le monde. Voilà, on s'aperçoit que tout le monde ne franchit pas forcément la porte de la mairie. Alors d'abord parce qu'il faudrait pour cela couvrir tout le champ des handicaps et que les handicaps sont très nombreux. Ça ne sont pas seulement que des handicaps physiques, il y a des handicaps sensoriels. Alors de ce côté-là, nous faisons des progrès aussi. On ne peut pas tout citer, mais par exemple, moi j'ai eu le plaisir de m'apercevoir que notre salle de l'atrium est accessible aux personnes malentendantes. Cela aussi, nous continuons à y travailler, mais ce qui me laisse quelques réserves, c'est aussi parce que, nous le savons, certaines personnes, je le disais, franchiront difficilement la porte de la mairie, parce que c'est toujours un petit peu impressionnant pour certains de franchir la porte d'une administration. Et puis certaines, on le sait, la franchiront difficilement, mais d'autres ne la franchiront jamais. Alors, si elle le franchit, il manquera peut-être ce petit plus d'aide, d'accompagnement qui leur permettra d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on relève comme frein sur lesquels on est en train de travailler, sur lesquels moi, je bataille beaucoup et pas qu'à la mairie? Ça va être ce que je vais appeler une fracture administrative, c'est-à-dire ceux qui, effectivement, sont perdus. Parce que le choc de simplification, soyons honnêtes, il n'a pas vraiment eu lieu, et ça on vérifie tous les jours. Ça va être la fracture numérique, c'est-à-dire beaucoup de choses maintenant se font sur Internet, et tout le monde n'y a pas accès, et tout le monde ne sait pas s'en servir. Ça va être la barrière de la langue, parfois Géraldine faisait allusion à l'accueil de migrants, mais nous avons un grand nombre de concitoyens qui sont d'origine étrangère et qui ne maîtrisent pas, qui vont peut-être parler couramment, enfin le français dans les gestes de la vie courante, mais qui ne vont pas maîtriser le langage administratif, qu'il faut bien reconnaître, est parfois assez abscond. Ça peut être des personnes qui ne possèdent pas les codes et qui vont être très maladroites et que peut-être, nous, de notre côté, on ne va pas non plus très bien accueillir parce qu'on va se sentir agressé alors que c'est tout simplement que nous ne partageons pas tout à fait les mêmes codes. Tout ça fait que, on le sait, il faut être honnête, oui, malheureusement, il y a des personnes qui restent encore éloignées de nos services. Et ça, nous en sommes persuadés, c'est l'enjeu majeur de ces prochaines années. Et vous pouvez vous adresser à n'importe quel élu, de n'importe quelle strate, que ce soit une commune, que ce soit un département, une région, même à l'échelon de l'État. Je crois que si vous leur demandez, quel est le grand projet, quel est l'enjeu majeur de ces prochaines années, il va vous dire, c'est l'accès de tous. Aux services, à la santé, et puis il va vous expliquer aussi cette difficulté qu'il y a parfois à se mouvoir dans les méandres administratifs de notre République. Alors en attendant quand même, on y travaille et on parle de proximité. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais adjointe au service à la population et à la proximité. Alors, on essaye de multiplier au maximum les moments où nous allons être en contact direct avec nos concitoyens. Alors, évidemment, pour les élus municipaux, c'est peut-être un petit peu plus facile que pour les élus qui sont perchés à Paris.
Mais il n'empêche qu'il faut être inventif, il faut être très présent pour arriver à les rencontrer et à pouvoir discuter avec eux et accepter d'être interpellé aussi sur les questions qui les préoccupent. Alors ce seront des permanences sans rendez-vous qui ont été mises en place il y a 3 ans maintenant, tous les samedis matins à la mairie, un élu est présent pour recevoir les personnes qui le souhaitent. Sans rendez-vous, ce sont des permanences de proximité, donc ce sont des permanences d'élus qui sont décentralisées dans les différents quartiers de la ville. Ce sont des réunions de quartier, ça c'est pas une grande nouveauté, mais enfin c'est toujours une petite épreuve à passer pour un élu. Ce sont des réunions spéciales sur les logements sociaux, je ne m'attarde pas, j'en reparlerai dans quelques instants. Et ce sont des petites choses comme ça qui sont assez conviviales, mais qui ont un grand intérêt. Ce sont ces cérémonies d'accueil des nouveaux Dacquois, par exemple, où on va présenter la ville d'un côté, mais où on va entendre un petit peu ce que ces personnes ont à nous dire avec un œil neuf. Et puis un œil souvent qui a pu observer d'autres choses ailleurs. Donc ils peuvent parfois nous donner des idées, parfois faire des critiques constructives, parfois nous renforcer dans nos convictions, et c'est toujours très intéressant. Et puis, c'est une autre cérémonie à moi qui me tient un petit peu à cœur, c'est l'accueil des bébés de l'année. Alors là, c'est un peu la même chose, mais avec des parents, des jeunes parents souvent, et c'est des moments aussi où on peut échanger sur les préoccupations un peu plus liées justement à la famille. Et puis, tous ces exemples de temps de rencontre et d'échange sans la barrière administrative, hein, j'insiste là-dessus. Ces moments informels dans la rue, parce que oui, nous avons une vie, nous aussi, nous vivons dans notre cité, donc on croise les gens dans la rue. Et puis les événements auxquels nous participons dans la ville, voilà, donc on peut être le matin en train de marcher aux Foulées Roses et l'après-midi en train d'intervenir devant la CAT, c'est tout à fait possible. Voilà. J'ai peut-être été un petit peu longue, mais je vais faire juste un focus assez rapide sur une autre mission qui m'a été confiée il y a 3 ans maintenant. Je suis administratrice d'Ixelles Habitat, donc c'est le bailleur social le plus implanté, on va dire, dans les Landes, et ce qui m'amène à présider la commission d'attribution des logements d'Ixelles Habitat pour Dax Sud-Landes. Alors pourquoi je fais un focus là-dessus? Parce que d'abord, ça touche le droit au logement, évidemment, et que cette thématique-là, je suis allée bien vérifier, on y fait quand même allusion aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dans l'article 25, où on dit que chaque homme a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, etc., etc., et le logement. Voilà. Donc sur cet aspect-là, l'expérience montre également que malgré les efforts de la collectivité, on est plutôt bien quand on regarde les chiffres pour la ville de Dax, on est plutôt bons élèves, hein, on a nos 20% de logements sociaux, on est même au-delà, la crise du logement, elle est bien là. Ça c'est un fait. Et l'accès à un logement privé, force est de constater que pour un grand nombre de nos concitoyens, c'est mission impossible. Voilà. C'est-à-dire que les agences ou les propriétaires considèrent que en deçà d'un certain niveau de salaire, non, ils ne loueront pas à ces personnes-là. Et c'est dramatique parce que ce sont des personnes, quand même, quand on voit leurs revenus, qui sont loin d'être dans la pauvreté. Alors, la paupérisation, par contre, elle est évidemment, vous en doutez, mais on pourra échanger, on a quelques chiffres aussi, elle est évidemment concentrée dans les zones urbaines. Enfin, une certaine forme de pauvreté concentrée dans les zones urbaines. Et s'il est parfois difficile de trouver des locataires qui acceptent d'aller dans le rural, parce qu'évidemment, il faut être mobile, il faudrait qu'il y ait des transports, il faut qu'il y ait des services. Les demandes dans les zones urbaines relèvent de ce que j'appelle, moi, souvent je l'armoie auprès de mes collègues, je leur dis c'est un puits sans fond, je n'y arriverai jamais. Alors j'espère que si quand même. Donc nous avons face à nous des situations familiales, alors j'ose pas trouver un qualificatif parce qu'Odile va me faire des gros yeux. Alors je vais dire dégradé. Est-ce que ça te va, Odile? Bien. Pas d'emploi ou des emplois très précaires, le handicap que l'on retrouve très souvent, Et puis pour ces gens-là, et on le comprend, toujours l'espoir de trouver la maison de leur rêve. Et évidemment, entre le rêve et la réalité, parfois, il y a un grand écart. Alors les collectivités, les bailleurs sociaux se doivent de trouver une réponse à cette demande. Il faut un toit au-dessus de tout le monde, au-dessus de toutes les têtes. Alors, un peu techniquement, mais il y a quelques années, les trois anciens bailleurs, principaux bailleurs qui étaient sur les Landes, alors la SHLM, l'Office public de l'habitat de Dax et celui des Landes ont fusionné pour être un peu plus costaud. Et puis, il faut bien le dire, du coup, ils ont récupéré, je dirais, ils ont engrangé, je dirais, les dossiers les plus difficiles à traiter. Sur Dax, j'ai la sensation que, mais ça doit être vérifié dans d'autres domaines, que ce ne sont que des urgences que je traite. Des urgences liées à une situation de séparation, souvent avec violence. Le nombre de femmes victimes de violences me donne l'impression d'augmenter, mais je suppose que ce doit être vérifiable avec les chiffres. En tout cas, moi, je le touche du doigt lorsque je suis en commission d'attribution des logements. Les expulsions, pour des raisons diverses et variées, les logements indécents ou inadaptés, et puis, je le disais, les logements trop chers dans le privé. Et tout ça font que, effectivement, un très grand nombre de personnes font appel au bailleur social, en l'occurrence pour nous, XL Habitat. Alors parfois, je ne fais pas très bien la différence, il faut bien le dire, entre la commission d'attribution des logements et puis la commission de médiation, où on va traiter des urgences locatives, le DALO, etc., les réserves préfectorales. Quelquefois, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me soucie depuis que j'ai en charge cette mission supplémentaire. Voilà. Un petit focus ensuite, on va un tout petit peu, mais à peine, sortir du champ de notre champ d'élus municipal, parce que c'est rarissime que l'on soit uniquement élu municipal, souvent on est engagé ailleurs aussi, et force est de constater aussi que parfois la force publique, elle a ses propres limites d'organisation, de locaux, de compétences, de personnel, de budget, il faut bien le dire aussi. Alors c'est pour cela que nous soutenons la vie associative et à Dax, vous savez peut-être ou pas, eh bien il y a 400 associations répertoriées à Dax. Alors, il y en a plus de 300 qui sont actives et même très actives et qui nous permettent donc de soutenir notre action culturelle, sportive, solidaire, caritative, et notre action de proximité. Alors voilà, l'engagement politique associatif, c'est-à-dire celui du citoyen, ben, il est intimement lié à notre avis, et donc on va essayer rapidement, avec Géraldine, de vous parler de deux sujets qui nous tiennent à cœur.
Oui, deux sujets qui nous tiennent énormément à cœur, et où, pour le coup, là, la déclaration des droits de l'homme prend tout son sens. Et pour ma part, je suis présidente d'une épicerie sociale qui s'appelle le Marché des Familles. Tous les jours, certaines situations me laissent à penser que nous sommes dans la bonne ligne en ce qui concerne la déclaration des droits de l'homme. J'ai un jour, je me suis permise de presque me féliciter d'être présidente d'une telle association en ayant l'impression d'en faire beaucoup et d'en faire peut-être trop. Et j'ai une petite fille qui avait à l'époque 9 ans qui m'avait demandé quelques jours avant de lui acheter la Déclaration universelle des droits de l'homme illustrée pour les enfants, qui me l'a ramenée dans un salon, qui me l'a posée, qui m'a dit « t'es bien gentille ». Mais je te rappelle quand même que l'article 1 que nous a cité Viviane tout à l'heure dit « tous les êtres humains naissent libres et égaux et en dignité et en droit, mais surtout, et elle me fait de son petit doigt me le lève et me dit « mais surtout, et doivent agir envers les uns et les autres dans un esprit de fraternité ». Alors, tu te vantes, mais quand même c'est normal. Eh bien oui, elle avait raison. Comme quand je vous disais tout à l'heure que les jeunes ont plus le sens... ont plus conscience de ce qu'est notre déclaration des droits de l'homme, je pense que je suis dans le vrai. Le marché des familles est une association qui donc permet à des personnes qui sont dans des situations très compliquées ou qui traversent à un moment de leur vie une période très compliquée, leur donner la possibilité de pouvoir acheter des denrées alimentaires d'hygiène ou d'entretien à un prix tout à fait modique. Dans nos statuts, dans les statuts de la société, nous avons un peu repris justement la déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment en termes de dignité, c'est donner la possibilité à tous les adhérents, en toute dignité, de pouvoir se nourrir, ce qui est quand même aussi une obligation. Je rappelle, la déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 25, c'est un droit. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je pense pouvoir dire que tous les jours, nous ouvrons au quotidien avec les bénévoles, les salariés et le conseil d'administration pour veiller à ce que la dignité soit respectée, l'intimité des gens, leur vie privée soit respectée également, car c'est très important. Et nous avons aussi décidé, puisqu'il y a quand même un autre article dans cette constitution qui rappelle que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile dans des...
J'y avais pensé.
dans les pays de la République, enfin, dans la République, nous avons décidé, avec le conseil d'administration et les bénévoles, de pouvoir aider toutes les personnes réfugiées qui étaient arrivées sur le territoire, au centre d'accueil et d'hébergement, mais également au centre d'accueil de demandeurs d'asile et également aussi au centre d'accueil de jour et de nuit, de pouvoir donner la possibilité d'aider ces associations. Nous aidons ces structures ou ces associations en non seulement livrant des repas et en plus en donnant la possibilité à ces personnes-là de venir d'être adhérents au marché des familles, à l'épicerie sociale. Et puis, parce que le droit à la santé, à se nourrir et à se loger est pour moi le droit le plus important, nous avons aussi décidé de créer un nouveau dispositif qui s'appelle l'Estanquer des familles et qui est la possibilité à des gens là également qui traversent une période très difficile d'avoir accès à un repas gratuit tous les jours, un repas chaud, qui nous est fourni par l'unité centrale de restauration gratuitement, parce que l'unité centrale de restauration de l'hôpital de Dax souhaitait lutter contre le gaspillage alimentaire. Ils font peut-être plus de 7000 repas par jour, ils en jettent plus de 1000 par jour, plus de 2000 même par jour, et ils souhaitaient faire même profiter des associations. Donc le marché des familles a créé ce dispositif. Et voilà, je pense que effectivement, quand on est élu, on ne se rend pas vraiment compte à quel moment notre action est en lien avec la déclaration des droits de l'homme. Et Viviane le disait, souvent la force publique n'a pas la possibilité de tout faire. Et aide, soutien, en tout cas en ce qui concerne la ville de Dax, il y a un fort soutien à la vie associative, un fort soutien aux associations. Mais il en va de même pour le département des Landes qui accompagne vraiment ces associations fortement avec une véritable volonté, avec des subventions importantes pour que ces associations puissent tenir bon et puissent continuer leur activité. Et en tout cas, en tant que présidente du marché des familles, tous les jours, je crois, je me rends compte que la déclaration des droits de l'homme, nous avons une obligation de veiller à ce que tous les droits soient respectés. Et en tout cas, nous, en tant que bénévoles et salariés, nous veillons à ce que dans nos limites, nous donnions la possibilité à tout le monde de pouvoir se nourrir, mais aussi d'avoir accès à des activités auxquelles ils ne pourraient pas avoir droit, comme un atelier cuisine pour comment bien cuisiner, bien manger avec des produits. Voilà, des fois, quand on a peu de moyens, on n'achète pas de légumes, on va pas au marché. Mais comment on fait une bonne soupe avec une botte de légumes et une botte de petits pois, une botte d'haricots verts, une botte d'épinards, comment on fait une bonne soupe? Mais c'est aussi des ateliers d'estime de soi et puis des ateliers sophrologie que nous proposons. Il y a un atelier d'expression écrite, d'expression libre, avec la création d'un journal où tout le monde peut s'exprimer et tout le monde peut donner son point de vue. Donc ça, c'est une grande fierté de pouvoir être présidente de cette association, et qui prend tout son sens lorsque l'on lit la déclaration des droits de l'homme.
Alors, j'ai toujours l'habitude de dire que ça sera même une très grande fierté quand on n'aura plus besoin de l'être.
C'est ça. Voilà.
Alors moi, je vais faire un petit peu comme Géraldine, juste une petite incursion, mais très rapide, rassurez-vous. Alors je disais que le lien entre l'engagement politique et associatif, il est très fort. Alors soit parce qu'on a commencé par l'associatif et puis on s'est fait un peu repérer et un jour on est venu nous chercher à la faveur d'un 11 novembre, par exemple. Tiens, tu ne voudrais pas être sur ma liste. Ou quelquefois c'est un peu l'inverse, on a un engagement politique très fort au départ et puis on se fait repérer par les associations par contre. Bon bref, alors moi je vais vous présenter très rapidement, rassurez-vous, l'association que je préside aussi, c'est les Francas des Landes. Alors peut-être que certains vous allez dire que j'ai des trucs, les Francas. Alors les Francas des Landes, c'est une association d'éducation populaire, bon, c'est même une fédération d'éducation populaire, hein, puisqu'il y a les Francas à l'échelle nationale et qui se décline donc de manière territoriale par des associations départementales sur presque tous les départements. On a quelques zones blanches, on essaye de les combler. En tout cas sur les Landes, c'est une association départementale assez dynamique et donc notre chambre d'intervention, ce sont les loisirs éducatifs pour les enfants et les jeunes. Et ça, c'est vrai qu'on s'aperçoit chez les utilisateurs eux-mêmes que ce n'est pas forcément une priorité. C'est vrai que malheureusement, souvent la priorité, ça va être bien de manger, de se vêtir, d'avoir un toit, et on le comprend. Et puis souvent, on va s'interdire de penser aux loisirs éducatifs. Alors heureusement que l'école est obligatoire, ça c'est l'enseignante qui parle, parce que sinon, je ne sais pas si on aurait beaucoup évolué depuis quelques siècles. Voilà, donc pour ce qui est des Francas, je vais mettre juste un focus, je ne vais pas vous raconter la vie des Francas, parce que les Francas à l'échelle nationale, c'est plus de 75 ans. Sur les Landes, on vient de fêter nos 60 ans il y a 15 jours. Donc je ne vais pas tout vous raconter, mais juste mettre un focus sur l'idée d'accès aux loisirs pour tous. Voilà, puisque c'est notre champ d'action actuel, accès aux loisirs éducatifs pour tous, pardon. Et nous, par contre, nous avons réalisé, il y a quelques temps, qu'on avait un texte sur lequel on pouvait s'appuyer de manière très explicite. C'est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui, elle, fête ses 30 ans cette année. Voilà. 20 novembre. On s'appuie effectivement sur cette Convention internationale des droits de l'enfant, hein, qui rappelle tous les droits indispensables, vitaux. Alors, le droit à une identité, le droit à une famille, le droit à l'éducation, à un logement, le droit à ne pas participer à un conflit armé, etc., etc. Et au milieu, il y a le droit, effectivement, au loisir. C'est-à-dire qu'on considère que parmi les droits fondamentaux des enfants, il y a celui de s'amuser, et de s'amuser intelligemment. Voilà, donc pour travailler sur ces questions-là, les Francas sont à la fois un mouvement et une fédération, c'est-à-dire on essaye de garder un juste équilibre entre la réflexion et puis les actions éducatives. Voilà, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Et donc, en ce moment d'ailleurs, on est en train de rédiger notre prochain projet 2020-2025. Donc ça donne lieu à de grands échanges sur ces questions, en lien évidemment avec l'état de la société actuelle. Et évidemment, beaucoup de choses nous posent question. Donc nous appuyons aussi beaucoup sur l'expression des enfants et des jeunes. Alors ça revient très à la mode un peu partout, tant mieux, nous en sommes ravis. Au Francas, ça fait bien longtemps que la place de l'enfant et que la parole de l'enfant, elle nous semble centrale et primordiale. Donc nous essayons de valoriser toutes les actions qui visent à donner la parole aux enfants pour qu'ils puissent dire eux-mêmes ce qu'ils pensent de leurs conditions de vie, de leurs conditions d'action, de leurs conditions d'éducation, etc., etc. Et puis nous avons lancé il y a 2 ans maintenant
ce que nous on appelle dans notre jargon un chantier partagé, mais enfin il porte bien son nom, ça veut dire qu'on ouvre les portes des francas et qu'on fait venir tout un tas de partenaires qui nous semblent intéressants pour nous aider sur ces questions-là. Et on a appelé ce chantier « Pauvreté, précarité ». Voilà. Le côté positif, c'est l'accès aux loisirs éducatifs pour tous. Et donc, on a mis autour de la table tous ceux qui, justement, se posaient des questions sur « Mais comment on fait pour rejoindre les enfants et les familles qui ne viennent jamais dans les structures de loisirs éducatifs ?» Vaste question. Ça n'est pas qu'un problème d'argent. Parce que même quand c'est gratuit, ces personnes-là ne viennent pas. Donc il y a autre chose, il y a d'autres questions à apporter, il y a d'autres choses à faire. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce qui les freine? Alors d'abord, je disais, ben, eux-mêmes font passer le loisir après d'autres contingences, ce que l'on peut comprendre, mais on est là pour leur rappeler que c'est indispensable aussi. D'autres personnes n'osent pas franchir la porte du centre de loisirs, la porte de la mairie, quand c'est un centre de loisirs municipal, parce qu'il y a des papiers encore à remplir, puis il y a des documents à fournir, et puis il y a des démarches à faire, parce que, évidemment, on peut avoir des aides, mais pour avoir une aide, il y a un dossier à remplir. Pour la xème fois, on va vous redemander les mêmes documents, dont vous ne savez plus très bien d'ailleurs ni ce que c'est, ni où ça se trouve. Donc la CAF, si elle était là, vous dirait, dans toutes les familles qui pourraient activer les aides de la CAF pour bénéficier à leur enfant, aux accueils de loisirs pour leur enfant, ou leur séjour vacances, eh bien, parmi les familles les plus pauvres, il y en a plus de 80% n'activent pas ces leviers-là. Donc voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Dans les familles les plus pauvres, plus de 80% ne vont pas chercher les aides pour leur permettre d'envoyer leur enfant en séjour vacances, par exemple. Voilà, ça veut dire qu'ils n'y vont jamais. Et je le redis, ce n'est pas qu'ils n'y vont pas parce que, alors certes, ils n'ont pas les moyens, mais comme ils auraient les aides, ceux qui ont les aides maximales n'ont rien à payer, par exemple, pour un séjour vacances. Avec les francas, avec la Ligue, avec les pupilles d'enseignement public, voilà. Bon. Donc ça pose quand même question. Donc ces gens-là, comment les rejoindre? Eh bien, on a mis un peu tous nos adhérents collectifs autour de la table, on a mis les partenaires, la CAF, la MSA, la DCSPP, la préfecture, l'éducation nationale, les collectivités, enfin, qui nous aiment, nous suivent, et on s'est aperçu finalement qu'on avait, comme d'habitude, tous les mêmes problèmes, chacun de notre côté, et qu'on ne savait pas comment les régler. Et là, petit à petit, on est en train d'essayer, en s'appuyant sur nos adhérents collectifs, de mettre en place des plateformes, on ne voit plus ça comme ça pour l'instant, on n'a pas encore donné de nom très officiel, petites plateformes locales, où nous ont rejoint d'ailleurs les épiceries sociales, qui sont d'excellents partenaires, bien tout simplement pour rentrer en contact avec ces familles-là, parce qu'on ne les voit jamais. Donc le seul moyen, c'est d'aller vers elles, d'aller les trouver là où elles sont, et en même temps qu'on va leur expliquer comment préparer une bonne soupe avec les boîtes de conserve, on va peut-être leur dire, mais tiens, votre enfant, là, il a 10 ans, ça serait sympa qu'il aille à la montagne un peu cet été, ou qu'il aille faire un peu de ski, ou qu'il aille sur le bord, au bord de l'océan, etc. Allez, on va vous aider à remplir le dossier. Ou qu'il aille au centre de loisirs, tout simplement. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. Mais vous voyez, quel que soit le domaine, le champ d'action, voilà, on n'est pas encore au pays des bisounours, mais on y tend. Voilà, merci.
On a été bavards.
Comme toujours.